On l'a envoyé comme ça. Alors ce matin, on parle ensemble de, j'aurais dû ajouter dans le titre de ma page en haut, j'aurais dû ajouter conversion, deux points, la foi et la repentance. D'accord? Ça aurait été un petit peu plus clair parce qu'au début, vous ne comprendrez pas pourquoi je donne une définition de la conversion alors que le titre de ma page, c'est la foi et la repentance. On est dans la section sur le salut. On est en train de voir différents aspects du salut. Et puis c'est ça. Ce matin, on parle de la conversion, mais plus spécifiquement, ces deux éléments-là de la conversion qui sont la foi et la repentance. Qu'est-ce que la véritable repentance? Qu'est-ce que la foi qui sauve? Est-il possible d'accepter Jésus comme sauveur et non comme Seigneur? Ceux qui sont des vieux de la vieille, qui lisaient un petit peu la théologie, la dernière question fait allusion à tout le débat autour du Lordship Salvation. Est-ce que Jésus peut être mon sauveur sans pour autant être mon Seigneur? Ça a été un débat assez important dans les années 80. Alors, une définition. La conversion est notre réponse volontaire à l'appel de l'Évangile, par laquelle nous nous repentons sincèrement de nos péchés et plaçons notre confiance en Christ pour être sauvés. Puis on va développer ça ensemble. Le mot conversion désigne l'action de se tourner. Il s'agit ici d'un tournant spirituel par lequel l'homme se détourne du péché pour se tourner vers Christ. Donc, c'est une double action, si on peut dire, puis c'est ça qu'on va développer ce matin. L'idée de se détourner de pour se tourner vers, d'accord? C'est pas simplement d'aller vers Christ, c'est aussi d'abandonner quelque chose. Donc, se détourner du péché pour se tourner vers Christ. Par la repentance, l'homme se détourne du péché par la foi, il se tourne vers Christ. Je m'excuse. Alors, premièrement, la véritable foi qui sauve inclut la connaissance, l'approbation et la confiance personnelle. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est la foi qui sauve. Parce que des gens qui disent croire en Jésus, je veux dire, si c'est juste sur la base de dire que je crois en Jésus qui fait qu'on est sauvé, on est des milliards, littéralement, sur la terre de chrétiens. Mais de toute évidence, on n'est pas des milliards de disciples de Jésus-Christ. Les évidences sont là, les fruits ne sont pas là pour démontrer qu'on serait tous des chrétiens, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est cette foi qui sauve? Premièrement, la connaissance seule ne suffit pas. Alors ça, je pense que ça va être assez évident pour tout le monde. Il ne suffit pas de savoir ce que la Bible enseigne sur Christ. Il ne suffit pas de connaître ces choses-là pour avoir la foi, pour avoir la foi qui sauve. Posséder des connaissances justes sur le christianisme ou sur le Christ ne suffit pas pour avoir la foi. Il y a plein de gens qui savent des choses. En fait, il y a des commentateurs bibliques qui écrivent des choses sur Christ, qui étudient les Écritures, qui savent plus de choses que vous savez sur Christ, que moi je sais sur Christ. Il y a des commentaires bibliques des fois que je me sens, puis tu le lis, puis tu dis, OK, le gars n'est pas chrétien. Mais c'est un spécialiste. C'est un spécialiste du livre, d'accord? Pour lui, c'est comme un moteur d'automobile. Il connaît de fond en comble, il l'a décortiqué dans tous les sens. Donc, il connaît un million d'affaires sur Christ, mais pas la foi. Ce sont des connaissances qu'il a sur la personne de Christ. Par exemple, ceux qui vont étudier en sciences religieuses à l'université vont apprendre à étudier les différentes religions. On ne dira pas d'eux pour autant qu'ils sont à la fois bouddhistes, Krishna, chrétiens, témoins de Jéhovah, puis toute la gang. Ils ont plein de connaissances, d'accord? Alors, la connaissance seule ne suffit pas. D'un autre côté, évidemment, et c'est une des particularités du christianisme, la connaissance est essentielle à la foi chrétienne. D'accord? Alors, il y a certaines fois, certaines religions qui reposent sur une expérience mystique, puis l'espèce de, en philosophie, on appelle ça la gnose, l'espèce de connaissance qu'ils ont, c'est pas une connaissance définissable, tu pourrais pas écrire des faits sur ce qu'ils ont connu, ils ont expérimenté quelque chose avec un être quelconque ou une expérience quelconque, et il n'y a pas de connaissance à écrire, à définir. Une personne, des idées, une théologie, des doctrines, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une expérience. Le christianisme n'est pas comme ça. Tu ne peux pas avoir la foi et être sauvé si tu ne connais pas. D'accord? Paul nous dit dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc, l'argument de Paul, c'est simple, c'est si on veut qu'ils soient sauvés, il faut falloir leur parler de Jésus, il faut falloir qu'ils connaissent Jésus. Il faut falloir, premièrement, qu'ils connaissent des choses sur Jésus, puis ensuite de ça, qu'ils apprennent à connaître la personne de Christ, puis on va voir c'est quoi la foi ensemble. Donc, la connaissance seule ne suffit pas, mais elle est nécessaire, elle est essentielle. La connaissance et l'approbation ne suffisent pas. Il ne suffit pas non plus de connaître des choses sur Christ et d'en reconnaître la véracité pour avoir la foi. Par exemple, Nicodème reconnaissait que Jésus-Christ venait de Dieu, mais il n'avait pas encore placé sa foi en lui comme Messie et Sauveur personnel. OK, Nicodème, regardez, j'ai donné la citation dans Jean 3. Nicodème s'adresse à Jésus puis il dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème sait des choses sur Jésus, il sait que Jésus vient de Dieu, il n'a pas encore la foi qui sauve. Il n'a pas placé sa confiance en lui pour son salut personnel. Il est en train de s'interroger à savoir si c'est le Messie, si c'est lui vraiment qui est le Messie qui vient. Je dois compter sur Jésus pour mon salut personnel. Pour être sauvé, je dois ajouter à la connaissance sur Jésus-Christ la confiance en lui pour mon salut. Ainsi, une décision personnelle de placer ma confiance, ma foi en lui est nécessaire. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je vais juste vous donner la définition à la page qui suit, là. Définition de la foi salvatrice. La foi salvatrice est la confiance placée en Jésus-Christ comme une personne vivante pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. J'ai trouvé intéressant, je pense qu'on le fait un peu intuitivement, là, mais Grudem suggère que ce serait souvent plus utile de parler de confiance en Jésus que de foi en Jésus. Fait que moi, je dirais que c'est une bonne manière d'expliquer c'est quoi la foi en Jésus, c'est de parler justement de confiance. Parce que la foi, les gens ont la foi. J'ai quelqu'un encore cette semaine que je jase avec, puis tout ça, puis on était en train de parler des philosophies, puis là, on parlait du zen, puis tout ça, puis il m'a dit, ben moi aussi, je suis chrétien, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, tu es chrétien? Ça veut dire que tu places ta confiance en lui vraiment? Ça veut dire quoi, tu es chrétien? Il est chrétien au sens nominal du terme. Est-ce que ça veut dire que c'est Jésus qui est la base de ta confiance pour l'éternité? Est-ce que tu te confies en lui pour savoir comment diriger ta vie? Fait que je trouve que le terme confiance, c'est vrai. C'est une bonne manière d'aider les gens à comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de la foi. Alors, lorsqu'on veut leur expliquer c'est quoi placer sa foi en Jésus, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Je vais juste vous lire le paragraphe ici. Il peut être utile alors que nous connaissons l'Évangile. Bon, prochaine phrase. En effet, bien des gens disent avoir la foi, mais ceci n'implique pas pour autant qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ. La simple question, as-tu placé ta confiance en Jésus pour ton salut ou en qui places-tu ta confiance pour ton salut peut déjà nous aider à voir de quel type de foi il est question. La confiance en une personne est une notion que nos contemporains saisissent très bien. Puis, dans notre langage à nous, dans notre époque, on va admettre l'idée que plus on connaît une personne, plus on va avoir confiance en elle. Dans la mesure où c'est une personne qui mérite d'être connue, là, comprenez? Des gens que tu connais de plus en plus et tu as de moins en moins confiance, on s'entend, parce que tu découvres qui ils sont. Mais si c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, qui est digne de confiance, bien en effet, plus tu grandis dans cette relation-là, plus tu la connais, plus tu vas avoir confiance en elle. Et donc, lorsqu'on parle de foi dans le sens chrétien du terme, ça ressemble pas mal à ça. Avoir foi en Jésus, c'est avoir confiance en lui pour notre éternité, confiance en lui pour conduire notre vie. Le Nouveau Testament, à certains moments, parle de la foi en des termes très intimes. Ainsi, l'apôtre Jean parle de recevoir la lumière comme synonyme de croire. Ça, c'est vraiment intéressant. La foi, ce n'est pas juste quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose que je reçois, c'est une personne que je reçois. Alors, dans Jean 1,12, là, Jean est en train de parler de Jésus comme étant la parole, la lumière, d'accord, le Fils. Et donc, on est dans la partie où il présente Jésus comme la lumière, et puis il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière, le Fils, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Croire en Jésus, c'est le recevoir. Ça revient encore à la relation de confiance, d'intimité. Si quelqu'un dit « Oh, moi aussi je crois en Jésus. » Une question simple, c'est « Ok, est-ce que tu l'as reçu? » Tu me dis que tu crois en lui, tu l'as reçu? Mais je l'ai reçu, j'ai reçu la foi à mon baptême quand j'étais bébé, j'imagine, je ne sais pas. J'ai reçu quoi? Non, mais c'est une personne. C'est une personne. Est-ce que tu l'as reçu? Comme tu reçois quelqu'un chez toi à manger? Comme tu reçois un ami dans ta vie qui entre dans ta vie puis qui vient bouleverser ta vie, qui vient composer ta vie? Est-ce que tu l'as reçu? Voyez-vous, alors la foi, c'est quelque chose qui nous parle d'une relation intime, qui nous parle d'une relation de confiance. Dans Jean 3,16, Nous, on a tendance à lire très, très vite parce qu'on est habitué à ce verset-là, on le connaît bien, on le connaît par cœur. Maintenant, ça aussi, ça parle d'avoir confiance en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un qui va me dire « Je crois en Jésus », si je lui pose la question « Est-ce que tu crois en lui puis tu crois qu'à cause de lui, tu ne périras pas? » Si la personne déjà me dit « Ben là, je suis chrétien, là, je crois en lui. » Non, 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 on parle de celui qui peut sauver ton âme. Là. Ton âme est damnée. Est-ce que tu crois en lui? Parce que si tu crois en lui vraiment, là, tu ne périras pas éternellement. Voyez-vous, déjà, il y a une distance qui va se prendre dans le langage si la personne n'a pas cette foi qui parle d'une relation intime avec Christ. Le terme qu'on a, c'est la foi en grec, c'est pistis, d'accord? Puis l'expression qui revient constamment avec placer sa foi en Jésus, ça parle vraiment de porter notre confiance, de se reposer sur quelqu'un. Bon, ça ne vous dira rien, le pistéon, eist, auton, mais c'est dans l'autre. C'est placer ma confiance dans l'autre, me reposer sur l'autre. Et c'est ça, la foi. Maintenant, Jésus exprime cette vérité-là d'une autre manière. Puis, au fur et à mesure qu'on voit le langage biblique, je suis conscient là, que c'est probablement tout du connu pour vous. C'est bon que vous soyez capable de l'analyser, ce que vous croyez. D'accord? Vous savez, à 99% des choses que je vous ai dit jusqu'à présent, là, c'est bon que vous soyez capable de l'expliquer, de l'analyser, pour pouvoir le communiquer comme il faut à quelqu'un. Regardez comment Jésus exprime cette relation de confiance. Jésus parle de venir à lui dans Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, quelqu'un qui me dit qu'il a la foi en Jésus, je peux lui poser la question. Quand est-ce que le Père a incliné ton cœur pour que tu viennes à Christ? De quoi tu parles? Est-ce que je vienne à Christ? De quoi tu parles? Non, mais Jean nous dit qu'on est censé le recevoir puis on est censé aller à lui. C'est ça, la foi. Ça parle d'une relation. Ça parle d'une relation de confiance. Quand est-ce que tu es allé à Christ? À quel moment tu as fait ça? Le dernier jour, dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça parle encore une fois de confiance. Ça parle de venir à lui, de puiser en lui. Présumons pas que tout le monde ici est chrétien, d'accord? Si votre relation avec Dieu, c'est pas une relation de ce type-là, si vous n'êtes pas capable de parler de ce moment où vous êtes venu à Christ, vous avez décidé de placer toute votre confiance en lui pour votre salut, pour votre éternité, puis l'inviter lui à entrer dans votre vie, vous n'avez pas la foi qui sauve. Et c'est possible que vous soyez dans une église évangélique pendant des années sans jamais nécessairement connaître intimement Christ. Parce qu'il y a tellement d'autres aspects à la vie chrétienne qu'on peut vivre plein d'affaires avec Dieu ou avec les chrétiens puis avoir le sentiment que, dans le temps, quand j'ai fait JBEC, c'était jeunesse évangélique baptiste en mission. Fait qu'on était tous des jeunes puis on allait faire de l'évangélisation un peu partout. Puis dans les années où j'ai fait JBEC, il y a deux Jibécois qui se sont convertis. Donc, il y a deux missionnaires qui se sont convertis. À un moment donné, ils allaient de porte en porte puis ils annonçaient l'évangile avec un partner puis il s'arrête puis il dit « Ça marche pas, je suis pas chrétien, moi. » C'est quelque chose que je viens juste de comprendre. Là. Ça fait 200-300 portes qu'il l'explique, là, mais il vient de comprendre. Il vient de saisir quelque chose. Il vient de saisir que c'était pas une relation personnelle, il avait jamais reçu Christ. Je sais pas si c'était cet aspect-là. Mais ce que je vais illustrer par là, c'est que lorsque je prêche et lorsque je prends soin de l'Église, dans mon esprit, c'est clair qu'il y en a qui sont pas chrétiens. C'est très, très clair. Alors peut-être que c'est votre cas. Peut-être que pour vous, il y a une lumière qui s'ouvre de dire « Oui, mais je suis supposé recevoir Jésus comme un ami intime. Et je suis supposé aller vers lui pour entrer dans cette relation intime. » Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça parle encore une fois de venir à lui, de se décharger sur lui, de prendre son joug à lui sur nos épaules. Voici comment John Owen, j'ai déjà cité à quelques reprises John Owen, c'était un pasteur puritain d'Angleterre au 17e siècle. Voici comment lui le résume. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je pense que dans une assemblée comme la nôtre, des fois on serait mal à l'aise de dire les choses comme ça. Ça nous donne l'impression que Dieu supplie un petit peu trop. Mais pourtant, il y a des bons versets qui nous dirigent dans ce sens-là. Voici comment il s'adresse à vous aujourd'hui. Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi périr éternellement? N'auriez-vous pas pitié de vos propres âmes? Qu'en sera-t-il de vous au jour du jugement? Tournez-vous vers moi pour être sauvés. Voyez-vous, il prend la place de Christ qui est en train de parler. Venez à moi et je vous soulagerai de tous vos péchés, de vos chagrins, de vos craintes, et je donnerai du repos à vos âmes. Venez, je vous en supplie. N'hésitez plus, ne me rejetez plus. L'éternité est devant la porte. Ne me détestez pas à tel point que vous préféreriez périr plutôt que d'accepter la délivrance que je vous propose. Voilà comment le Seigneur s'adresse aux pécheurs. Voilà comment il insiste auprès d'eux. Il le fait à travers la prédication de sa parole comme s'il était lui-même présent et parlait personnellement à chacun de vous. Il vous envoie ses messagers, ses prédicateurs de l'Évangile, pour vous parler de sa part, et les invitations qu'il vous adresse sont aussi ses invitations. Et dans le fond, lorsqu'on pense à Jésus, la manière que Jésus pleure sur Jérusalem, tout ça, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal des supplications, c'est des larmes, on voit un cœur qui souffre du fait que les âmes ne répondent pas. C'est pas... Christ n'est pas constamment présenté comme ça à travers les évangiles. Dieu n'est pas constamment présenté comme un Dieu qui serait toujours en train de pleurer parce que les méchants hommes ne veulent pas venir à lui et il a besoin de leur amour. Vous comprenez? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais lui connaît les faits, connaît la réalité, connaît notre destinée et il nous appelle. Il nous appelle à lui. Il y a donc trois éléments essentiels à la foi chrétienne. La compréhension, l'adhésion, ça veut dire reconnaître que c'est vrai ce qui est dit sur Christ. Et puis, la confiance en Jésus-Christ pour le salut. Faire le pas de foi de placer ma confiance en lui. Et puis, juste un autre élément à mentionner qui est quand même intéressant puis important des fois dans votre discussion avec les gens. Beaucoup de nos contemporains vont associer la foi avec l'ignorance. Puis, ils vont dire, bien, pour garder la foi, il faut que tu restes dans l'ignorance. Si tu savais plus, tu croirais moins. D'accord? Et donc, si tu savais, par exemple, que, je ne sais pas, ma Marie-Madeleine a été mariée avec Jésus, ou tu sais, des trucs comme ça, enseignés dans un bon roman, un mauvais roman, en plus, je l'ai lu, c'est mal écrit. Les gens ont l'impression que plus tu connais, moins tu vas avoir la foi. C'est pas ça le christianisme. C'est exactement le contraire. Plus la connaissance de Christ va aller grandissante, plus ta foi va grandir. Et donc, on n'est pas... On n'a pas une foi qui devrait nous amener à rester loin des débats, rester loin des contradicteurs, rester loin des affirmations comme si on avait besoin de s'isoler. Au contraire, on peut aller confronter les déclarations, confronter les arguments. Oui, Camille.
Pour les gens, souvent, la foi est aveugle. La foi est associée à un aveuglement, alors que Jésus dit « Je suis la lumière ». Alors, la foi chrétienne est vraiment associée à une connaissance. C'est complètement l'inverse.
Merci. D'accord, alors ça devrait être votre vision de la foi, ça devrait être votre expérience de la foi. Vous n'avez pas à craindre de ce que vous allez lire ou trouver ailleurs en vous disant « Ouais, mais c'est parce que moi j'ai la foi, mais c'est parce que j'ai été élevé dans une église évangélique, c'est pour ça que j'ai la foi. » Puis, tu sais, si j'avais été élevé dans un autre pays où ça avait été seulement des musulmans, peut-être que je serais juste musulman. Hey, si c'est ça, lis le Coran, ça presse. Parce que j'ai hâte que tu reviennes à la Bible avec une conviction. Comprenez? Vous ne perdrez pas la foi chrétienne en lisant le Coran, je peux vous le dire. Vous allez être assez choqués, là, merci, là, mais vous n'allez pas perdre la foi en lisant le Coran. Ceux que vous voyez des conversions du christianisme au Coran, ce qu'on voit dans les médias, il faudrait premièrement aller voir s'il y avait la foi avant. Là. Vous comprenez? C'est généralement des chrétiens nominaux qui viennent d'une culture chrétienne et qui découvre une foi engagée dans l'islam, puis qui, là, il s'intéresse à ça. D'accord? Ça, je peux comprendre ça. Je veux dire, tu peux aller découvrir des choses n'importe où. Mais on n'a pas une foi qui devrait nous amener à rester caché. Et si vous êtes dans cette situation-là, vous avez été élevé dans un milieu évangélique, puis votre foi est très insécure, puis ça affecte votre évangélisation, parce que lorsque vous allez parler avec des gens, bien, vous dites... Tu sais, quand ils commencent à défendre leur point de vue, puis à sortir des arguments du genre « Ouais, mais regarde, toi, t'es né là-dedans, moi, je suis né dans ça, puis c'est comme ça, puis tu sais, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas la vérité ailleurs? » Tu as des doutes, cherche-la. Cherche-la ailleurs. Continue à lire la Bible, là. Cherche-la ailleurs. Lis. Va éprouver. Tu vas découvrir qu'il y a juste Christ qui est mort sur la croix pour tes péchés. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas ailleurs, ça. D'accord? Ça va? C'est juste un petit commentaire par rapport à la foi. La foi et la repentance doivent aller de pair. Alors ça a été un débat, pas un gros débat, mais ça a été quand même un débat dans les années 80. En anglais, ça a été appelé toute la question du « Lordship Salvation ». John MacArthur avait écrit un livre « The Gospel According to Jesus ». Merci. Fait que ça, c'était tout le débat autour du « Lordship Salvation ». Et la question qui était soulevée dans ce débat-là, c'est « Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la repentance dans mon cœur pour que je puisse dire que j'ai la foi qui sauve? Est-ce que la repentance est un ingrédient essentiel au salut? » D'accord? Puis on va le développer ensemble. Définition, se repentir, c'est regretter sincèrement son péché. Le dénoncer, ça veut dire être prêt à le confesser. Et s'engager de tout cœur à y renoncer et à marcher dans l'obéissance à Christ. Écoutez bien le commentaire qui suit, ça c'est important. La repentance n'est pas un changement de vie autant qu'une intention sincère de changer de vie. Elle engage sur le chemin du changement, sur la voie du changement. La vie transformée est en effet un fruit de cette repentance. D'accord? Alors si on définissait la repentance comme une vie transformée, ben non, les Écritures n'enseignent pas qu'il faut avoir une vie transformée pour pouvoir dire que j'ai cru. D'accord? Il y a des gens qui meurent avant même qu'il y ait quelques transformations, sinon ce qui se passe comme foi dans leur cœur. Ils se reconnaissent pécheurs, ils placent leur foi en Christ et ils meurent. Ils n'ont pas fait d'œuvre, on n'a pas eu le temps d'assister pour voir « Ouais, mais c'était-tu une vraie confession de foi? C'était-tu une vraie profession de foi? » On le saura dans l'éternité, là. C'est tout. D'accord? Alors, quand on parle de repentance, on n'est pas en train de parler de porter les fruits d'une vie transformée. On parle de cette décision dans le cœur de renoncer au péché, de voir le péché tel qu'il est, de renoncer au péché et de s'engager intentionnellement à suivre Christ. C'est juste ça, la repentance. Est-ce que ça va ou vous avez des questions juste sur cet aspect-là? Ça, je voudrais que ce soit vraiment clair. Oui, Daisy.
Quand vous dites que la personne a décidé de suivre Christ, c'est pas automatiquement qu'elle va porter des fruits. Si la personne, c'est ça.
Alors, oui, il va y avoir des fruits si c'est une vraie repentance. Les fruits, la vie transformée, ce sont les fruits de la repentance. D'accord? Mais la question qu'on est en train d'établir ici, c'est est-ce que c'est possible de croire en Jésus sans se repentir? Est-ce que c'est possible de devenir chrétien, d'expérimenter la conversion sans se repentir? La réponse du Nouveau Testament, pour moi, c'est très, très clair, c'est non, c'est impossible. Il faut qu'il y ait la repentance. Est-ce qu'il faut que j'ai porté 24 heures de fruits pour pouvoir dire que je suis chrétien? Non, on est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres. D'accord? Mais à ma foi, au moment de ma conversion, il y a et la foi en Jésus et la repentance. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, je commençais avec l'image de conversion. La conversion, c'est me détourner du péché pour me tourner vers Christ. Les deux ingrédients sont là. Me détourner du péché, c'est ma repentance. Puis je me tourne vers Christ, je place ma foi en Christ. C'est ça la conversion. Est-ce que c'est plus clair? Okay. La repentance demande, elle aussi, une compréhension intellectuelle. Alors, juste pour faire, Grudem développe ça comme un parallèle avec la foi. La repentance demande elle aussi une compréhension intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut saisir ce qu'est le péché. c'est ça qu'on fait lorsqu'on présente l'Évangile à des gens. Ils vont dire, ouais, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Je crois en Jésus, OK, bon, j'ai-tu besoin de plus que ça? De quoi j'ai besoin? Mais ils ont non seulement besoin de comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, mais ils ont besoin de comprendre aussi c'est quoi le péché, puis qu'ils sont pécheurs. Donc, il y a encore une connaissance qui est là, là. Il y a encore une compréhension intellectuelle. D'accord? Quand j'essaie de les conduire à Christ, il faut qu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'être sauvés de quelque chose. C'est sauver de leur état de pécheur. Donc, il y a cette idée, encore une fois, de compréhension qui est là par rapport à la repentance. Ça demande une adhésion, c'est-à-dire qu'il faut que je reconnaisse qu'effectivement, le péché est là, il est dans ma vie, il est bien présent. Donc, c'est ma réalité aussi, je crois que c'est vrai dans mon cas aussi. Puis, elle demande un acte de la volonté, un acte de confiance, c'est-à-dire je prends la décision de m'en détourner du péché. Pas un acte de confiance, un acte de la volonté. Je prends la décision de me détourner du péché. Je n'ai pas nécessairement encore porté de fruit. D'accord? Mais ça, c'est un fruit en lui-même. J'ai décidé de me détourner du péché. Ça prend cette décision-là. Et des fois, vous allez annoncer l'Évangile à quelqu'un, puis c'est comme, « Wow, Jésus, c'est génial, qu'est-ce qu'il a fait? C'est super, c'est excitant, tout le kit. » Puis là, tu parles avec dans les semaines qui viennent, puis les mois qui viennent après, puis tout a de l'air toujours trop lourd pour Jésus, puis... Ouais, mais tu sais, c'était pas vraiment ça que j'avais compris, c'était pas vraiment ça. C'est moi, j'ai placé ma foi en lui. Puis là, tu me parles d'un paquet d'affaires qu'il faut faire. T'sais. Ben, dans le fond, je te parle juste de te détourner du péché puis de marcher dans la sainteté. C'est juste ça, là. Ça va avec la conversion, mais peut-être que tu vas réaliser que cette personne-là, c'est pas convertie. Elle a trouvé le message de Jésus génial, puis elle trouvait ça génial que Jésus lui dise, garde, signe ici, je te donne l'éternité. Sauf que le contrat n'a pas été lu au complet. Parce que Jésus nous sauve du péché, nous sauve de la damnation, nous appelle à se repentir, quitter le péché pour aller vers lui. On va le voir ensemble dans les Écritures. La repentance n'est pas un simple regret. Et ça, c'est extrêmement important. En effet, nous pouvons éprouver des regrets sans jamais avoir le désir ni la volonté de nous détourner du péché. Les prédicateurs du Nouveau Testament ne nous invitent pas au regret. Mais à la repentance, Jean-Baptiste ne disait pas « regrettez ». Non, il disait « repentez-vous, changez de vie, abandonnez le péché ». C'est pas « allez vous morfondre, oh, regrettez ». Non, confesse ton péché, Dieu va te pardonner, puis change de vie, repends-toi. Détourne-toi. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ dans Actes 20-21. Dans 2 Corinthiens 7, 9 et 10, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » C'est clair? Paul n'était pas juste content de prêcher un sermon, puis là, quand, tout le monde fait le coupable. T'sais, tout le monde sort d'ici et dit hey, Yannick, c'est clair qu'on n'est pas à la hauteur de ton Dieu. Man. Moi, je fais tellement dur. Mais ça mène à quoi, ça? C'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas les conduire seulement à la tristesse. On veut les conduire à une tristesse qui les amène à la repentance. D'accord? On est là pour libérer les gens, pas pour les accabler. Et c'est ça que Christ est en train, c'est ça que Paul est en train d'annoncer ici. Il dit car vous avez été attristés selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Ça veut dire qu'on ne revient pas en arrière, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Nous pouvons donc en conclure que la foi et la repentance sont les deux facettes, comme le dit si bien Grudem, d'un acte unique. Nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et nous repentons de nos péchés, les deux allant de pair. Encore une fois, pensez toujours à l'image de la conversion. Je me détourne du péché pour me tourner vers Christ. Ça, c'est ma conversion, c'est se tourner vers. Mais je me tourne de quelque part si je me tourne vers. Je me détourne du péché pour me tourner vers Christ. C'est les deux facettes d'un même acte. Ça se passe au même moment dans la vie d'un individu. Et lorsqu'on commence à séparer ces deux choses-là, ça donne toujours une espèce d'évangile bonbon qui ou encore de la culpabilité à... On n'en peut finir, vous comprenez? Si on fait juste parler du péché des gens et il n'y a pas l'espoir en Christ, ben, je veux dire, on retombe dans des vieilles religions qu'on a connues. D'accord? Mais autrement, si je ne parle pas de la repentance, je suis en train de prêcher quelque chose qui n'est pas vraiment l'Évangile. Et Jésus revient constamment avec ça. Il dit, venez à moi, pensez au jeune homme riche. Le jeune homme riche, si Jésus avait juste dit, crois en moi. Tu veux dire, je respecte déjà toute la loi, je suis vraiment sharp. Puis là, tu voudrais juste en plus que j'ajoute ça dans mon affaire, que je crois en toi. C'est beau. Non, non, Jésus dit, tu vas te repentir aussi. Parce que tu as un Dieu dans ta vie, c'est ton argent. Fait que donne tout ton argent puis suis-moi. Oh, là, il s'en va. Il ne peut pas le suivre. D'accord? Parce qu'il n'était pas prêt à se repentir. Dans la pensée biblique, les deux vont de pair. Nous ne saurions parler d'une foi salvatrice sans repentance. Et toute véritable repentance est le fruit de la foi en Jésus-Christ. La foi demande la repentance et Jésus l'exprime aussi en nous invitant à prendre la décision de nous placer sous son autorité. Alors, par exemple, tantôt, on a cité Matthieu 11, 28, 29. Quand je décide de venir à Jésus, je décide de prendre son joug sur mes épaules. Je décide de me placer sous son autorité. Ça veut dire que je me détourne de quelque chose pour me tourner vers lui, je me place sous son autorité directement. Ainsi, venir à Christ implique que nous nous plaçons sous son autorité. On retrouve cette association entre la confiance et la repentance à travers l'ensemble de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Quand tu viens vers Dieu, tu te places sous l'autorité de Dieu. Dieu n'est jamais ce Dieu bonbon à qui tu fais juste crier à l'aide, puis tchouf, il t'envoie des nananes du haut du ciel. Tu sais, comme les avions militaires qui vont juste faire tomber des affaires. Là. C'est des rescue missions, puis ils font juste faire tomber des nananes. Dieu n'est jamais ça. Jamais dans l'Ancien Testament. Tu te tournes vers Dieu, tu te places sous son autorité. C'est constamment ça. Dans Ésaïe 55, 6 et 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous avez l'Évangile. C'est juste que Jésus n'est pas mentionné. D'accord? Mais vous avez tout l'Évangile. Homme d'iniquité, détourne-toi de ton iniquité, viens à Dieu. Dieu prend toujours plaisir à pardonner. Vous avez tout l'Évangile qui est juste là. Alors, cette idée-là d'associer la repentance avec la foi, c'est présent dans toutes les Écritures. Et là, le débat qu'il y a eu dans les années 80, c'était parce que certaines personnes avaient l'impression qu'en disant que ça prend la repentance au moment de la conversion, ils avaient l'impression qu'on commençait à enseigner un salut par les œuvres. Alors qu'il voulait qu'on reconnaisse que c'est seulement par la foi qu'on est sauvé. Ce n'est pas une question pour nous. Tu es sauvé juste par la foi. Mais quelle foi? On est sauvé juste par la foi. Je n'ai pas apporté une journée de bonne vie chrétienne pour entrer au ciel. Comprenez? Pour que ma garantie soit valide, je n'ai pas besoin de sortir ma voiture du garage. Dès que j'ai signé, je suis sauvé. C'est beau, c'est réglé. C'est un acte de foi. On est sauvé juste par la foi. Mais quelle foi? C'est quoi cette foi-là? Je veux dire, les bouddhistes croient en Jésus. Les hindouistes, je m'excuse, qui sont prêts à croire en Jésus, il n'y a pas de problème. C'est juste un autre Dieu de plus qu'ils ajoutent sur leur tablette. D'accord? C'est juste un Dieu de plus, puis tu en ajoutes, puis ça augmente tes chances. D'accord? C'est pas la foi qui sauve. Alors, quand les gens vont être mal à l'aise avec l'idée de placer la repentance avec la foi, ils vont évoquer certains versets dans les Écritures qui mentionnent juste la foi. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai, puis on s'en sort. C'est des textes absolument extraordinaires. Pensez à Jean 3, 16. Pensez à, évidemment à Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La repentance n'est pas mentionnée dans Éphésiens 2, 8 et 9. C'est juste la foi qui est mentionnée. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Paul et Silas n'ont pas dit, « Crois et repens-toi. » Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je vais essayer de vous sortir de votre torpeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelqu'un qui vous dit, Éphésiens 2, 8 et 9, c'est clair, ça prend juste la foi, ou ce texte-là qui est évident. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ça ne prend pas la repentance. Enseignez-moi, M. Prévost.
Il parle de lui. Et sa famille, mais sa famille n'est pas sauvée automatiquement à cause que lui est sauvé. Il faut qu'il passe aussi par la repentance et par la foi en Jésus-Christ.
OK. Maintenant, dans ce passage, vous avez raison, il faut que tout le monde croie, ça je suis d'accord avec vous. Dans ce passage-là, il n'est pas fait mention de repentance, par exemple, juste de la foi.
Moi, je dirais que, je ne me souviens plus exactement où, mais ça dit, tu fais bien de croire, les démons croient aussi, ils tremblent. Mais c'est ça, justement, il semble avoir quelque chose d'autre que juste le fait de croire.
C'est écrit dans la Bible plus tard, la foi sans les œuvres est inutile. Donc, quand tu crois, à un moment donné, ça va automatiquement, ta foi va être en action et puis il va se produire des fruits de la repentance.
Donc, lorsqu'on étudie la foi dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est clair que la repentance est présente aussi. D'accord? Camille? On va regarder d'autres textes qui sont encore plus... qui nous font réfléchir pas mal.
C'est très intéressant. Lorsqu'on voit les apôtres prêcher, ils prêchent la repentance. Partout dans les Actes, ils ne vont pas prêcher la foi seuls, mais beaucoup, ils vont prêcher la repentance, la conversion à Christ. Et c'est partout... c'est beaucoup, beaucoup mentionné que c'est la repentance qui est prêchée. Donc, en quelque part, oui, la repentance. En prêchant la repentance, la foi vient automatique et en prêchant la vraie foi, la repentance est automatique. C'est vraiment comme ensemble.
Okay. Camille aime encore 2000 pions, là. Mais on va aller voir les textes ensemble. À plusieurs reprises, justement, il y a certains textes où on voit qu'on est invité à croire en Jésus. Mais on ne pense pas à citer les passages où il est juste mentionné qu'on doit se repentir. Puis la foi en Jésus n'est pas mentionnée. Ça dit juste « repens-toi » puis « viens Jésus ». Mais ça ne parle pas nécessairement d'avoir la foi. On va les regarder ensemble. Et justement, ça nous permet de mettre les deux ensemble après. Je vais juste lire le paragraphe, là, de ne pas en oublier quelque chose au milieu, le bloc au milieu de la page 6. Ces passages sont importants et nous aident bien sûr à démontrer que le salut ne repose pas sur nos œuvres. Mais est-ce à dire que la repentance qui se produit dans le cœur n'est pas un élément intégral de la foi salvatrice? Mais pour nous aider à comprendre ce que la Bible enseigne à ce sujet, nous devons considérer plusieurs passages que nous oublions trop facilement. Car si la foi en vue du salut est mentionnée seule dans de nombreux passages, il en va de même pour la repentance. Là, je vous ai donné une liste, je vais juste vous en lire quelques-uns, d'accord? Mais écoutez-les, lisez-les, juste en essayant de répondre à cette question-là. OK, est-ce que j'ai juste besoin de ça pour être sauvé ou est-ce que c'est implicite qu'il faut que j'ai la foi, par exemple? Dans Luc 24, 46, 47, « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » La foi n'est pas mentionnée, mais la repentance et le pardon des péchés en son nom. Ça veut dire que je vais croire en lui. Je vais placer ma foi en lui. Mais l'accent est mis sur la repentance et le pardon des péchés. Dans Actes 2, 37-38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Fait que là, vous vous rappelez, c'est Pierre qui, le jour de la Pentecôte, annonce l'Évangile, puis il leur parle de Jésus, puis il dit, « Écoutez, ma gang de cabochons, c'est vous qui l'avez crucifié. » C'est ce qu'il dit, en gros. Là, ils sont complètement bouleversés. Ils réalisent qu'ils ont crucifié, ils ont livré le Christ, le Messie, qui attendait depuis des siècles. Et Pierre leur dit, non, c'est comme ça que ça devait se passer, d'accord? Paniquez pas, là, c'est correct, Dieu était au contrôle. Puis voici ce qu'il leur dit après. Il dit, homme, frère, que ferons-nous? Là, c'est la foule qui s'écrie à Pierre puis aux apôtres. Puis Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, la foi en Jésus là-dedans, c'est être baptisé au nom de Jésus. C'est là dans le texte. Je me fais baptiser au nom de Jésus, je place ma foi en lui. Mais il commence en parlant de la repentance, puis la foi n'est pas explicitement mentionnée ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est comme si la foi est disséquée. C'est quoi croire en Jésus? C'est me repentir de mes péchés, me convertir à Christ. Me détourner pour me tourner vers Christ. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors, la prochaine fois que vous annoncez l'Évangile à un ami, qu'est-ce que vous diriez de lui dire? Moi, je t'invite à la repentance. Je t'invite à te repentir, te détourner de ta vie de péché, rebelle envers Dieu, pour venir à Christ. Êtes-vous prêt à faire ça dans votre évangélisation? Oui, mais quand tu lui parles de sa repentance, c'est parce que c'est beaucoup plus attrayant, c'est beaucoup plus charmant d'annoncer, de dire, regarde, fais confiance à Jésus, il va prendre ta vie en main, il va pardonner tes péchés, il va te donner une vie abondante. Viens placer ta foi en lui. OK? Il faut parler de la repentance. Il faut parler de la repentance. Et prendre une vie de péché dans la vie de quelqu'un comme porte d'entrée, wow! Mais il faut y aller à un moment donné, tu n'as pas le choix.
On est étonné aussi de voir qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se culpabilisent, qui vivent dans une grande culpabilité, une grande tristesse. Puis on est porté souvent à leur annoncer l'espoir en Jésus. Mais très souvent, ces personnes-là ont juste besoin de se faire dire, écoute, tu as juste à te repentir de ça. Tu te culpabilises, tu te mortifies, mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état-là. Délaisse ça et tourne-toi vers Christ. Souvent, ça a plus d'effet que de dire, « Ah, ben Dieu, lui, il va te pardonner. » Puis, tu n'es pas capable de pardonner à toi-même, ben Dieu va te pardonner. Ben garde, tu peux lui parler de la repentance à cette personne-là. Et c'est très bon.
Oui, alors c'est ça. C'est ça. Si les gens, en partant, reconnaissent... Il y en a plein. Ah oui, il y en a plein. Alors, évidemment, si les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, de la même manière, si les gens ne reconnaissent pas que Dieu existe, bien, on est en train de partir de plus loin quand même. Fait que la personne qui dit qu'elle n'est pas pécheresse, bien, écoute, je veux dire, une manière très, très simple de le dire, c'est, regarde, dans ma compréhension, il y a une seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es parfait? C'est ça que tu me dis, tu es parfait, toi? Non, je comprends, mais la personne, est-ce que tu es en train de me dire que tu es parfait? Non. Non, je ne suis pas parfait, il n'y a pas personne de parfait. C'est ça que je te dis. C'est ça que je suis en train de te dire. On est tous pécheurs, il y a juste Dieu qui est parfait. Oui, ça, c'est ce que la... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, puis il y a plein de gens comme ça. Mais par exemple, une des manières de commencer, c'est de dire, regarde, moi, je crois qu'il y a juste une personne qui est parfaite, c'est Dieu. Si toi, tu me dis que tu n'es pas pécheur, tu es en train de me dire que tu es parfait. C'est-tu ça que tu es en train de me dire? Il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, je n'en ai pas rencontré encore qui sont prêts à dire qu'ils sont parfaits. Là, ils ne veulent pas faire la relation entre être imparfait et être pécheur. Ça, c'est une autre affaire. D'accord? Mais je commence. Je m'engage sur un chemin. Ce que je te dis, c'est que Dieu est parfait. Est-ce que toi, tu es parfait? Mais non, je ne suis pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Mais, dans le fond, c'est ça que je te demande. Je te demande juste de reconnaître que tu es comme tout le monde. Tout le monde est pécheur. Il n'y a pas personne de parfait. Ah, tu es en train de me dire que tu n'es pas un grand pécheur comme Ben Laden. C'est ça que tu veux me dire. Tu n'es pas un grand pécheur comme Hitler. C'est ça que tu es en train de me dire. OK, ça c'est une autre paire de manches. Est-ce que ça veut dire que c'est juste les pas grands pécheurs qui vont aller dans la présence d'un Dieu parfait? Ou est-ce qu'il faut être comme Dieu pour aller dans sa présence? Oui. Avant d'aller... Est-ce que vous avez compris la question? Quelle sorte de question je poserais à la personne pour lui montrer des péchés concrets dans sa vie? Avant d'essayer de montrer des péchés concrets dans sa vie, je voudrais lui faire admettre le principe. Le principe qu'elle n'est pas parfaite. D'accord? Parce que... après ça, on peut aller avec plein d'exemples. Après ça, je peux aller dans les Écritures, je peux parler de mensonges, tout ça. Mais le problème, c'est que... Dans le fond, ce qu'elle est en train de vous dire, cette personne-là, c'est pas qu'elle n'est pas pécheresse. C'est qu'elle fait juste des petits péchés, puis Dieu serait vraiment pas correct de ne pas l'aimer. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Elle n'est pas en train de vous dire qu'elle n'est pas pécheresse. C'est ce qu'elle dit, mais c'est pas ça qu'elle croit. Si vous allez assez loin, là, elle va reconnaître qu'elle est pécheresse, pareil comme tout le monde, mais c'est une petite pécheresse, c'est un petit pécheur. Je veux dire, Dieu serait vraiment pas correct de ne pas l'admettre. Puis là, vous êtes en train de débattre toute l'idée de « Oui, mais Dieu, il sait bien qu'on n'est pas parfait, puis il veut pas nous admettre dans sa présence. » Je suis en train de prendre le débat complètement à l'envers. Non, c'est pas ça que je te parle. Je te parle d'un Dieu saint et parfait qui voudrait t'accueillir dans sa présence pour l'éternité. Est-ce que ça t'intéresse? Tu ne rentreras pas dans sa présence comme ça. Il faut que des petits péchés, là, faut que tu réalises que c'est des vraies offenses. Des vraies offenses à Dieu. Ils font juste des petits péchés, ces gens-là. Travaille en dessous de la table. C'est juste des petits péchés, travailler en dessous de la table. Il n'y a pas de problème. Voler quelques heures à ton employeur, c'est tous des petits péchés, ces affaires-là. C'est véniel. C'est pas mortel. Tout le monde sait ça. OK. Excusez-moi, là. Alors, c'est ça, la repentance. Au bas de la page 6. Ainsi, nous conclurons en disant que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et que cette confiance que nous plaçons en Jésus-Christ pour notre salut est toujours accompagnée par une prise de conscience de notre état de pécheur qui nous amène à renoncer à cette vie pour vivre, pour suivre Jésus-Christ. Le témoignage général du Nouveau Testament nous montre systématiquement des croyants en Jésus-Christ repentants. Vous ne trouverez pas dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, vous ne trouverez pas des gens qui croient en Jésus qui sont non repentants. Ceux qui croient en Jésus qui sont non repentants, ben, il y a les démons, il y a des gens qui reconnaissent que c'est un grand prophète, mais qui sont prêts à le crucifier. Ils n'ont pas la foi qui sauve. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui croit en Jésus, il est repentant. C'est comme ça à tous les coups dans le Nouveau Testament. La foi et la repentance se poursuivent l'une comme l'autre tout au long de la vie. Et ça, c'est un aspect important qu'on essaie de développer à l'Église ici. Ce qui me libère au moment où je me convertis, c'est ma compréhension de la croix. C'est ma compréhension du salut en Jésus, n'est-ce pas? C'est ça qui me libère. Je me reconnais pécheur. Je vois mon état de condamnation. Je vois qu'il n'y a pas d'espoir pour moi parce que je suis pécheur. Puis je décide de placer ma foi en Jésus-Christ. Et là, je suis libéré. Et le réflexe... Oui, Karen.
Tout l'aspect de l'accepter comme Seigneur. Parce que là, on n'a pas encore. Ben, c'est ça, on n'a pas. Je pensais que Lordship, c'était ça, là. Mais finalement.
OK, ben, pour moi, c'était implicite dans le fait que je me repens. D'accord? Je me repens et je viens à lui. Donc, c'est là que je le vois. Jésus n'est pas seulement celui qui va dispenser mon salut. C'est celui vers qui je me tourne après avoir reconnu mes péchés. Puis je me tourne vers lui pour me placer sous son autorité. Et donc, quelqu'un qui va dire, ben moi, j'ai accepté Jésus comme sauveur à l'âge de 6 ans, puis à l'âge de 15 ans, j'ai accepté Jésus comme Seigneur. Tu t'es converti peut-être à l'âge de 15 ans, d'abord. Jusqu'à l'âge de 15 ans, tu trouvais intéressant que Jésus soit mort sur la croix pour tes péchés, mais il n'était pas question qu'il rende ta vie. Donc, tu ne t'étais pas repenti. Tu trouvais ça intéressant comme offre. C'était un deal intéressant. Ça répond-tu, Karen? Tu aurais voulu que je rentre plus juste dans le débat avec que John MacArthur a défendu. Désolé. OK, donc ce que j'étais en train de dire, c'est cette idée de la foi, de la repentance et de la foi, c'est pas quelque chose seulement pour le début de la vie chrétienne, c'est quelque chose pour chaque jour. On ne va pas ailleurs. On reste dans un sens-là. À tous les jours, à tous les matins, je me lève, puis je sais que je suis pécheur. Puis je le reconnais devant Dieu, puis je dis, Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à nouveau à marcher avec toi. Je place ma confiance en toi. Par exemple, lorsque Jésus enseigne le Notre Père, il nous enseigne à prier. C'est la prière quotidienne, d'accord? Il enseigne à ses disciples, voici comment vous devriez prier. Voici comment vous devriez prier. C'est ça, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prière quotidienne d'un croyant. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On se reconnaît pécheur tous les jours et on décide de placer notre foi en lui tous les jours. J'ai été crucifié avec Christ, c'est Paul qui parle, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc à tous les jours, je reviens là, je décide de placer ma confiance en Jésus. Et les journées où je ne me repens pas et je ne place pas ma confiance en Jésus, c'est des mauvaises journées chrétiennes, en général. Soit que c'est parce que je n'ai pas pensé à Dieu de la journée, ou soit que j'ai vécu de la culpabilité toute la journée. Ce qui fait que je vis la liberté de l'Évangile, c'est parce que tous les jours, je suis dans l'Évangile. Ce qui fait que je n'avance pas dans la vie chrétienne, accablé par mes fautes. Hier, j'étais en train d'étudier tout ça, puis... Là, je revoyais des affaires dans ma semaine où je n'étais pas fier de moi. Puis, oh, mais comment je dois faire pour avancer si je ne reviens pas constamment à l'Évangile? Des paroles, des pensées, des attitudes. Puis, je vais m'accabler, je vais être écrasé, je vais être détruit. Je reviens constamment à l'Évangile, tous les jours. Je me repens, je demande au Seigneur de me pardonner, je place ma confiance en lui. Ça, c'est tous les jours de notre vie. C'est la vie chrétienne à tous les jours pour vivre justement sous la grâce constamment. Je vous laisse avec 4 questions pratiques, d'accord? Je vais vous les lire. Puis s'il y en a une qui vous accroche, je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir un petit peu plus cette semaine. Possédez-vous une foi personnelle en Christ ou êtes-vous resté au stade de la connaissance intellectuelle et de l'adhésion émotionnelle au fait du salut? Ça veut dire, c'est je sais ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment touchant, mais je n'ai pas nécessairement décidé de placer ma confiance en lui pour mon salut. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Christ, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Peut-être qu'il n'y en a pas ici qui ne l'ont pas fait. Dans 30 minutes, il va y avoir des gens dans la salle ici qui n'ont pas fait ça. Je vous le dis. Il va y avoir des gens qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Quand vous les connaissez intimement, vous le savez, ça paraît. À un moment donné, tu le sais. Il peut y avoir un jeu, il peut avoir... J'ai eu un téléphone cette semaine à quelqu'un qui veut aller prendre un café avec moi. J'attends ça. Je sais qu'il manque un morceau. Alors peut-être que c'est votre cas. En termes de relations humaines, faites-vous davantage confiance à une personne quand vous ne la connaissez pas encore très bien ou une fois que vous êtes devenu plus proche, en supposant qu'il s'agit d'une personne fondamentalement digne de votre confiance? Partant de cette constatation, comment votre confiance en Dieu peut-elle augmenter? Que pourriez-vous faire au cours de la journée pour mieux connaître Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit? D'accord, on a parlé que la foi qui sauve, c'est de placer notre confiance, de connaître et de placer notre confiance. Bien, quand on parle du day-to-day de la vie chrétienne, vous voulez être de plus en plus en paix avec Dieu, confiant dans votre journée, reposer en lui. Il faut que vous grandissiez dans votre intimité avec Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour grandir dans cette intimité-là? Votre confiance va grandir au fur et à mesure que vous allez le connaître davantage. Dans votre vie de prière, dans votre méditation des Écritures, allez devant lui lorsqu'il y a des choses qui vous troublent, qui vous inquiètent, fréquentez des frères et sœurs pour pouvoir prier ensemble, lutter ensemble dans la prière. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour grandir dans cette intimité qui va faire grandir votre confiance en lui? Troisième, avez-vous sincèrement regretté vos péchés quand vous êtes venu à Christ? Pouvez-vous décrire ce sentiment? Vous a-t-il mené à un engagement authentique à abandonner votre péché? Combien de temps a-t-il fallu pour que vous remarquiez un changement dans votre façon de vivre? La conversion, là, hey, on a de la grande visite, bienvenue. La conversion, c'est comme se tourner vers. Puis là, vous pouvez vous retourner vers moi. Fait que la conversion, là, c'est un mystère. C'est un mystère dans le sens que la nouvelle naissance, on ne sait pas quand ça se produit exactement. Dans la vie de certaines personnes, c'est très, très, très évident. Les gens vont dire, je sais, c'est là que je me suis converti. C'est marqué, ça s'est passé comme ça. Et dans le Nouveau Testament, il y a des récits où tu vois, c'est clair. Il y en a d'autres, c'est comme pas tout à fait clair. Il y en a qui croyaient même des morceaux sur Jésus, puis il manquait d'autres morceaux encore, tu sais. Puis, hop, c'est pas tout à fait clair. Alors, par cette question-là, la question 3, je vous la relis là, à la lumière du commentaire que je viens de faire. Avez-vous sincèrement regretté vos péchés quand vous êtes venu à Christ? Pouvez-vous décrire ce sentiment? Je ne suis pas en train de chercher, de vous poser la question, est-ce qu'il y a une date, un moment magique où vous pouvez écrire que « Pow! Wow! T'as vu tes péchés, puis là, tu t'es repenti. » C'est pas vraiment ça que je cherche. Pour certains, ça se produit comme ça. Pour d'autres, ça se produit sur un mois, deux mois. Tu ne saurais pas dire exactement c'est à quel moment. Mais tu sais qu'à un certain moment donné, tu étais chrétien, puis avant, tu ne l'étais pas. Puis à quelque part, dans ce processus-là, tous ces morceaux-là sont tombés en place. Samuel. As-tu levé la main? Non? OK. Donc, je ne suis pas en train de chercher comme un moment magique nécessairement. Mais si vous regardez au début de votre vie chrétienne et vous n'êtes pas capable de voir ce moment où vous avez eu la conviction que vous étiez pécheur, la conviction que vous deviez vous détourner de vos péchés, peut-être que ça peut expliquer certaines choses dans votre marche dans la foi. Peut-être qu'il manque encore un morceau qui est là. D'accord? Mais quand vous regardez en arrière, en principe, vous êtes capable de voir un moment où vous avez eu cette conviction que vous étiez pécheur et cette conviction qu'en Jésus, vous trouviez le pardon pour vos péchés. La foi et la repentance continuent-elles à faire partie de votre cheminement ou ces attitudes de cœur se sont-elles quelque peu affaiblies en cours? Quelle en est la conséquence dans votre vie chrétienne? Alors, si vous n'allez pas quotidiennement à l'Évangile, il y a des conséquences, c'est sûr. C'est certain. Peut-être que vous êtes dans une religion, peut-être que vous trouvez ça super plate de marcher avec Dieu, peut-être que votre cœur est animé par plein de désirs qui sont plus mondains, puis vous dites, ouais, OK, il faut encore faire tout ça pour suivre Dieu. Oh, mais vous avez perdu l'Évangile. Alors, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui s'est éloignée n'était pas chrétienne. Mais est-ce que ça fait partie de votre quotidien, cette expérience-là de l'Évangile? Si ce n'est pas le cas, c'est sûr qu'il y a des conséquences néfastes. Peut-être que vous êtes en train de devenir religieux, peut-être que c'est l'eau, peut-être que votre cœur s'est refroidi. On n'alimente pas notre cœur, je viens à toi Sylvain, avec des devoirs. Quand vous m'entendez prêcher en avant, là, puis je sais que la marche chrétienne que je vous présente, c'est une marche chrétienne exigeante. Si vous avez pas, si vous n'allez pas quotidiennement à l'Évangile, là, je vous le dis, vous allez changer d'église. C'est comme, c'est pas vivable ici. Le gars, il veut mourir pour Jésus, puis moi, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Vous comprenez? Mais si vous allez quotidiennement à l'Évangile, vous allez vous reposer sur la grâce. Là, les choses deviennent tellement plus simples. Seigneur, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je suis pécheur, puis tu fais ce que tu veux avec ma journée aujourd'hui. C'est toi le patron. Je place ma confiance en toi. Tu vas me diriger. Tu vas m'accorder ta grâce pour te suivre. Ma vie est à toi. Oh! OK, là, on peut être des Jesus free. Vous comprenez?
OK, moi, juste pour aider, c'est tout un miracle se convertir puis donner notre vie à Christ. Mais du côté du Seigneur, c'est certain qu'avant qu'on se convertisse, on ne sait pas que le Seigneur est ressuscité. On ne comprend pas ces choses-là. Mais lui, il est vraiment vivant. Fait qu'il arrive, il se présente. Il y en a que ça prend un certain temps, il y en a que c'est instantané. Moi, c'est instantané. Fait que le Seigneur se présente. Puis quand le Seigneur se présente, puis que tu réalises toute ta personne, qui tu es, le rapport qu'il y a avec lui, c'est certain que tu donnes ta vie. C'est certain que tu, automatiquement, tu n'as pas le choix. La réaction normale de ça, c'est que là, tu goûtes au Seigneur. C'est certain que tu tombes. Tu t'écrases devant lui, puis tu donnes ta vie. Puis ça, moi, ça fait 30 ans, puis ça, ça a toujours resté. C'est toujours quelque chose que je peux pratiquer parce que je l'ai vécu. Mais une chose est certaine, c'est que c'est tout un miracle de donner notre vie à Christ parce que, ça, premièrement, c'est son action à lui, là, si ça se produit. Là.
Donc, si je résume en terminant, puis je vous laisse avec ça. La foi salvatrice, c'est quelque chose qui implique la connaissance. Ce sont des choses que j'apprends sur Dieu. Ce n'est pas juste une expérience mystique. Il faut que j'apprenne à connaître qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait. Ça demande mon adhésion à ces connaissances-là. Je reconnais qu'elles sont vraies. Ça demande une décision de ma part de placer ma confiance en lui. Comme Sylvain l'a dit, c'est une œuvre de l'esprit. Ça, c'est un autre sujet dans le survol des doctrines, mais c'est 100% vrai. C'est pas une œuvre humaine, d'accord? Maintenant, ça me demande quand même de placer ma foi en Jésus, de placer ma confiance en lui. Ça, c'est la foi salvatrice et elle implique la repentance parce que la conversion implique les deux. Ça veut dire que je vais me détourner du péché, je vais reconnaître non seulement qui est Jésus, mais c'est quoi le péché? Je suis pécheur. Je reconnais que moi, je suis pécheur, moi, je suis damné. Et je décide de me détourner de ça pour placer ma confiance en Jésus. Ça, c'est la foi salvatrice. C'est les deux facettes d'un seul et même acte surnaturel qui se passe dans la vie d'un croyant. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, c'est bon de revoir ces choses. Et comme Sylvain le disait, Seigneur, quand ça se produit dans nos vies, c'est ton œuvre à toi. Moi aussi, Seigneur, comme Sylvain, je me rappelle de ce jour, je me rappelle de ce moment où j'ai cédé les rênes, Seigneur. J'étais accablé par mon péché et j'entendais l'appel de ton amour et de ta grâce, Seigneur. C'était clair dans mon esprit. Et tu m'as saisi par ton esprit, j'ai abandonné le combat. Je me suis détourné de mes péchés, Seigneur, et j'ai placé toute ma confiance en toi. Quelle grâce extraordinaire, Seigneur. Seigneur, je veux marcher chaque jour à la lumière de cet évangile. Je veux commencer mes journées et les terminer, reposer dans l'évangile, Seigneur. Reposer dans ce salut merveilleux que tu m'offres. Me repentant quotidiennement, plaçant ma foi en toi quotidiennement, Seigneur. Seigneur, je te prie d'éclairer toute personne qui fréquente cette assemblée ou qui irait dans une église évangélique ce matin, qui entendrait, Seigneur, un message et qui pourtant n'entendrait pas l'Évangile. Viens éclairer par ton esprit, Seigneur, et qu'il n'y ait personne qui ait une fausse confiance, mais au contraire, qu'ils aient toute leur confiance en toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen.